Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot. Spéciale finale de la Ligue des Champions.
Karine Galli.
On est ensemble jusqu'au bout de la nuit, il est 1h03, vous êtes en direct sur RMC avec nous pour célébrer le Paris Saint-Germain. Oui, Paris l'a fait. Oui, Paris est magique. Deuxième Ligue des Champions de son histoire. On rappelle que ça a été dur face à Arsenal, mais ils l'ont fait. Avers avait ouvert le score. Dembélé a égalisé sur pénalty. Et la séance de tir au but a été fatale au Gunner. C'est le PSG qui l'a remporté. 4-3. On rappelle les joueurs qui ont réussi leur tir au but, Ramos, Doué, Hakimi et Beraldo. Le seul raté, c'est Mendes. Le PSG, donc deuxième Ligue des Champions de son histoire, 2025-2026. Le programme, je vous le donne. Ils vont rentrer évidemment de Budapest direction Paris. Demain, au Champ de Mars, à partir de 14h, pour célébrer cette deuxième étoile avec leur public, l'Elysée, donc le président de la République qui reçoit les Parisiens à 18h. Et puis la fête au Parc des Princes à partir de 19h30. On rappelle que l'an dernier, ils avaient fait également la fête au Parc des Princes. On va écouter un homme. L'homme, évidemment, qui a tout changé à Paris, c'est Luis Enrique, l'entraîneur espagnol. Il se projette déjà vers une troisième étoile.
C'est clair que des objectifs à préparer, on a l'automne. C'est le moment de les vacances, d'arriver à l'été. L'année dernière, on avait marqué l'histoire. On avait joué le Mondial des clubs et ça a été très difficile et très dur. Dans ce moment, la majorité des joueurs, ils vont aller avec l'Air National et c'est une compétition de très haut niveau. Mais pour nous, en tant que staff, on va profiter cet été. Clairement, il y aura des moments pour parler de les back-to-back-to-back, a dit Luis Campos. Et on est content d'avoir des objectifs à la hauteur de nos supporters, à la hauteur de cette club et à la hauteur de la ville.
Back-to-back-to-back, quand même, c'est dingue. Avant, le PSG, gagner la Ligue des Champions, ça leur paraissait impossible parce qu'il n'y avait que des scénarios cauchemardesques. Il y avait une finale perdue face au Bayern. Et là, tu viens à peine de gagner la deuxième et tu te projettes déjà sur la troisième. C'est incroyable quand même comme ils ont changé de dimension et comme rien ne peut les arrêter, même dans leur discours, en fait. Ils sont tellement sûrs de leur force.
J'aime bien, moi, ils sont affamés. Ils sont affamés.
Ah ouais, c'est fabuleux.
Non, mais là, l'histoire du PSG, c'est que là, ils sont avec Frédéric Lopez. Là, ils sont dans rendez-vous en territoire inconnu à chaque
c'est
fois.
C'est ça le titre.
C'est très inconnu.
Ouais, c'est pareil, ouais, c'est pareil, c'est fatigué, pareil, je suis fatigué.
Mais joue simple alors, si t'es pas joue simple.
Et en plus,
tu vois, moi je suis comme disait, je tente des passes entre les lignes.
Ça passe pas.
C'est rendez-vous en terrain connu, c'est bien ça.
Non, mais déjà, Elton, c'est plus lui qui présente l'émission.
Ça, c'est plus lui.
Mais vu qu'il a arrêté depuis des années.
Ah ouais,
c'est Jean-Pierre Foucault, c'est de la question.
Mais non, mais du côté.
Il n'y a rien qui va dans ton truc.
Non, mais puis sérieusement.
C'est-à-dire qu'il y a eu deux présentateurs depuis, et maintenant c'est Laurie Tillman. Frédéric Lopez est parti depuis très longtemps.
Autant qu'en voyant tout à l'heure, t'es pas branché.
Alors là, c'est ça, Rennes.
Frédéric Lopez, il est parti depuis très longtemps.
C'est Laurie Tillman.
Okay, et avant, il y avait un monsieur Raphaël, je sais pas quoi, il avait un nom.
Cadébanas.
C'est pas ça. Moi, je suis pas très doué dans les noms de famille. Avec des A.
Avec des A.
Mais enfin, en tout cas,
Fred n'a pas de sens.
Mais rendez-vous en terre inconnue.
Rendez-vous en terre inconnue, parce que à chaque fois, maintenant, ils se découvrent des nouveaux objectifs. Là, on parle d'un triplé historique en Ligue des Champions. Après le Real Madrid.
Raphaël de Casabianca. Il y avait beaucoup de A.
Ouais, donc tu l'avais
pas. Mais on ne le connaît pas très bien, cet animateur.
Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, voilà, c'est ça la réalité du PSG de Luis Enrique. Moi, j'ai beaucoup aimé un mot qu'il a évoqué et qui définit le PSG de Luis Enrique, c'est objectif. Cette équipe, elle ne se réalise pas, elle ne se définit pas forcément par des trophées, mais plutôt par des objectifs. Et les objectifs, c'est ce qui te tient match après match, saison après saison. À savoir que le trophée le plus important, c'est le prochain que tu vas remporter. Et c'est à ce titre qu'ils vont vouloir ambitionner ce fameux triplé.
En tout cas, il y a tout pour. C'est une équipe qui est légendaire. Moi, je regardais encore une fois la photo finale de ce match-là. C'est les mêmes têtes que l'année dernière. Ils ont une expérience de dingue. Ils ont une confiance. Ils ont une joie de vivre. Ils ont une bonhomie collective. Tu sens que les mecs s'adorent. Moi, je ne vois pas ce qui peut arrêter le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Ils ont un coach qui a une ambition, qui a toujours le bon discours, qui se met. Toujours dans la tête d'aller chercher plus loin, plus haut. Quand il est arrivé, il a changé totalement cette mentalité du club. Voilà, j'ai une pensée pour les supporters du Paris Saint-Germain qui ont eu une vie avant et sans Louis, une vie avant et après Luis Enrique. Tout a changé avec Luis Enrique. Tout est possible en fait avec Luis Enrique. Tu vois où la fin de match, t'as Beraldo qui est numéro 6 parce qu'il l'a préparé sur les dernières semaines. Ça tient. Il a un laboratoire en Ligue 1 où il peut faire ce qu'il a envie. Il peut faire de la rotation. Et derrière, en fait, tu regardes bien, t'es dans une Ligue des Champions, en fait, à deux phases, quoi. Ligue des Champions, où tu vas te qualifier, tu seras au moins dans les 16, voire dans les 24, même si t'as une grosse défaillance. Et après, la grosse explication, c'est sur la deuxième partie de saison. Et tant qu'il préparera cette équipe-là à être prêt, sur la deuxième partie de saison, avec les repères qu'ils ont, avec les certitudes qu'ils ont, moi, je vois pas aujourd'hui. Bon, bah, il y a le Barça qui va apparemment, déchaîner, le marché des transferts, mais on a vu Liverpool aussi déchaîner le marché des transferts.
Ça garantit pas
grand chose. Il faut que la sauce, en fait, elle prenne. Et la sauce du PSG, elle est excellente. Elle a pris. Et quand elle prend, derrière, ça peut durer des années, quoi. Ça peut durer des années. Et s'ils la prennent pas l'année prochaine, ils la prendront peut-être l'année d'après. Mais en tout cas, ils ont impacté le football européen. Et je pense que, ce sera une dynastie.
Il y a beaucoup de jeunesse, en plus.
Bien sûr.
On parlait effectivement de Marquinhos.
Et surtout l'attractivité sur le mercato des transferts, sur les nouveaux joueurs de U23, U24, que ce soit les Yann Diomandé, les Eli Kroupi, les Akliouche, les Konaté, bref, tous les joueurs aujourd'hui
vont vouloir venir jouer au PSG
sous Luis Enrique.
La manière dont le Paris Saint-Germain domine le football européen.
Quand tu vois, en fait, la publicité que donne Luis Enrique individuellement et collectivement, t'es un joueur, t'es un entourage, t'es un agent. Il y a un club où t'as envie de venir. Bah, c'est là.
Au même titre que Guardiola, à un moment donné, était très bankable, les joueurs voulaient venir justement dans ces clubs parce qu'ils avaient envie d'évoluer. C'est exactement le cas aujourd'hui avec Luis Enrique. Après, Luis Enrique, il a fait énormément pour le Paris Saint-Germain. Le seul petit point d'interrogation que j'ai, ou en tout cas la critique, c'est le fait peut-être de lâcher la Ligue 1. C'est vrai que pour le championnat de Ligue 1, est-ce que c'est vraiment judicieux? Après, bon, finalement, les résultats en Champions League,
il la gagne quand même.
Alors évidemment qu'il la gagne, mais c'est vrai qu'on est d'accord que quand même, il y a certains matchs, t'as le sentiment qu'il a pas envie vraiment d'être là. Mais attention, encore une fois, il a gagné la Ligue 1, il a gagné la Champions League. Ce qu'a fait Luis Enrique avec ce club-là, recréer un collectif, recréer justement une éthique de travail, parce que Marquinhos l'a très bien dit. Et puis surtout, messieurs, vous l'avez dit, mais il y a de la bonhomie dans cette équipe, tout le monde sourit. Alors évidemment, c'est aussi parce que les résultats suivent, mais c'est vrai qu'en tant que fan de foot, regarder ce Paris Saint-Germain cette année, c'est un plaisir.
Elton, on accueille Gaëtan, supporter parisien, au 32-16 sur RMC. Gaëtan, bonsoir.
Bonsoir
Gaëtan.
Salut Gaëtan.
Gaëtan, t'as bien fêté ce deuxième match.
Je pense que vous pouvez l'entendre par ma voix. Ouais, c'est,
oui, j'ai l'impression que la voix a déjà...
Mais c'est une voix reconnaissable, ça, non? T'appelles souvent, Gaëtan, non?
Comment?
T'appelles souvent?
Je suis passé 2-3 fois à l'antenne.
Ouais, je me rappelle de toi.
Ouais, ma voix, elle est partie avec le pénalty du dernier tireur d'Arsenal.
Ah ben bah, oui.
Elle est partie loin, alors.
Ouais, le ballon de Gabriel est recherché.
Elle est à Budapest, ta voix?
Du coup, Gaëtan,
on va te poser la question, papa ou maman de Karine, tu préfères 2025 ou 2026?
2026.
C'est quoi les arguments?
C'était trop facile l'année dernière.
Eh oui, moi je suis d'accord avec toi, Gaëtan. Je suis d'accord avec toi. Quand t'es supporter, quand t'es dans la douleur et au final tu gagnes, évidemment.
On a besoin de souffrir dans le football.
Moi, la séance de tir au but, c'est ce que je préfère dans le foot quand évidemment ça tourne en faveur de mon équipe.
Enfin, ouais, Karine, ouais.
Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le tir au but. Ils trouvent ça vraiment.
Le pétage de plomb pendant la première mi-temps où il essayait de gagner du temps et tout, enfin bref, tout le
qui essayait de gagner du temps?
Arsenal.
Ah,
Arsenal, moi j'adore Arsenal, mais là au premier,
enfin ils l'ont fait sur les dernières minutes. C'était sur les dernières minutes qu'ils l'ont fait.
Quelle chambre.
C'était
ils l'ont pas fait à la 15e.
Bon, au final on a gagné, c'est le principal.
Au final vous avez cette deuxième Ligue des Champions. Gaëtan, on se projetait sur la suite parce que c'est vrai que c'est incroyable, on se dit que ce PSG est inarrêtable, qui pourrait faire le back to back to back comme ils appellent ça. On rappelle évidemment que le Real Madrid l'a fait avec Zinedine Zidane. Est-ce que tu penses qu'il faut faire des retouches dans ce PSG ou on ne change rien, parce que l'an dernier, il y avait eu pas mal d'interrogations, de critiques sur le fait que peut-être il y avait pas eu assez d'arrivées et de 109, et les deux seuls joueurs qui y étaient arrivés, bon, de toute façon, ça a été des flops pour l'instant. On rappelle, bah, évidemment, c'est le gardien, le pauvre Chevalier, lui, qui a tout perdu, et Zabardi, qui pour l'instant n'est pas devenu le titulaire à son poste.
Bah, moi, je pense pas qu'il y ait eu de gros flops ou quoi par rapport à l'année dernière. Si, Zabardi, forcément, a fait quelques matchs où il est passé
pas
à travers.
Pas que quelques matchs, non.
Enfin, Zabardi, dans les gros matchs, c'est pas le titulaire. Donc, pour l'instant, il est en phase d'adaptation toujours. Mais il a coûté cher, hein.
Mais le problème, c'est que c'est dans un petit match qui floppe.
Mais je trouve que, à l'image justement du Real Madrid, quand ils ont fait le triplé, chaque année, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. L'équipe est restée la même globalement. Il y a eu une ossature qui est restée la même. Et ils ont continué comme ça. Il y a un ou deux joueurs qui est venu chaque année se rajouter à l'équipe. Mais il n'y a pas eu globalement de gros changements. Et on sait la suite que ça a donné. Avec un peu de chance, certes. Mais voilà, au final, ça a donné ce que ça a donné. Et pourquoi pas continuer sur la même lancée avec le Paris Saint-Germain.
Et toi, par exemple, parce qu'on en parlait, Walid, c'est vrai qu'il en parle assez souvent, il y a cette envie peut-être de franciser le PSG. Toi, ça t'intéresse ou t'en as rien à faire en tant que supporter? C'est pas un argument par rapport aux joueurs qui sont potentiellement sur le marché?
Non, si, ça peut être bien, parce que forcément, quand on est français, on gagne avec des Français, l'image est toujours meilleure. Là, par exemple, cette année, en plus, si on gagne la Coupe du Monde avec l'équipe de France, on aura gagné la Coupe d'Europe au rugby, la Coupe d'Europe au foot avec les Français, la Coupe du Monde, les Français seront sur le...
Ah, tu veux la totale, l'UBB, PSG, équipe de France.
Forcément, si on fait ça, en plus, avec que des Français, ce sera encore meilleur. Mais moi, ce qui m'importe, c'est les résultats de mon équipe. Et si on le fait avec des joueurs étrangers, ça me pose pas de problème tant qu'on continue de la gagner.
Mais bon, on pourrait aller chercher du côté du PSG. Hein. Je ne sais pas s'il est français, mais l'ailier droit du Bayern Munich.
L'ailier droit du... Ah, Michael Olise.
Peut-être pas mal ça, non?
Il fait de l'humour ce soir. Ouais.
Après,
ouais, après
il est pas sortable.
Ouais. Pour lui sortir, c'est trop compliqué.
C'est quoi, il se comporte mal? Il est quoi? Il met les pieds sur la table, il mange mal.
Hein? Et il mange beaucoup.
Ah ouais, parce que ouais, enfin, il fait manger surtout. Il fait beaucoup manger à ses partenaires.
Comment tu
caviar de préférence.
Du côté du Bayern, je veux dire, c'est fermé à double tour.
Ah ouais.
Non. Du côté du Paris Saint-Germain, je pense que s'il y a un poste qu'il ne peut pas recruter, enfin je veux dire, là ça va, ils sont assez fournis de...
Oui, mais à droite moi, si tu me sors Bradley Barcola et que tu me ramènes Michael Olise,
je vais sortir Barcola.
Il a une valeur marchande.
Tu peux proposer un échange au Bayern, je suis pas sûr qu'il prenne.
Ah bah il a une valeur marchande.
Oui, enfin d'accord. Oui. Enfin entre Olise et Barcola, a priori, tu vois.
Enfin, je sais pas.
Je suis pas sûr que compagnie, ils disent tout de suite oui, vas-y.
Oui, bien sûr,
après Barcola, je réfléchirai deux fois avant de demander un départ.
Oui, surtout vu sa rentrée, qui, moi je trouve, sur les deux situations, il doit faire encore beaucoup mieux, Bradley Barcola. Ce soir, moi je trouve que là sa conduite de balle elle est pas dingue, et même ses choix de jeu sur les deux là, il peut avoir une vraie image, il peut avoir une vraie image impactante, et il doit l'avoir ce soir.
De toute façon on le sait, sa saison elle a basculé sur le tacle de João Pedro, il a jamais pu retrouver sa forme derrière.
Gaëtan, on te fait un top 3. Il y a Konaté derrière et en joueur offensif Kroupi et Akliouche, tu prends qui?
Oh, c'est dur.
Tu veux pas tous les prendre, hein.
Moi, je sais, par exemple.
J'essaie d'aller. Je leur mets la pression, je m'en fiche. Mais je vais prendre Saliba Arsenal.
Ah oui, donc t'as rien à faire.
Yamal au Barça, moi. Yamal au Barça.
Mais Gaëtan, je te donne 3 options et tu me prends un 4e.
C'est quoi ton option, toi?
Akliouche.
Mais non, mais c'est pas possible, en fait, à un moment donné.
Je l'adore, j'ai le droit, laissez-moi rêver.
Quand est-ce qu'il y aura un peu d'honnêteté, en fait, dans les émissions de Karine Galli?
Mais j'ai pas le droit de l'aimer? Si, t'as pas le droit de trouver que c'est une pépite différente?
D'accord, mais c'est pas, enfin, on n'est pas graine de star, là, on n'est pas Secret Story, c'est pas...
Mais
enfin,
il faut faire le choix, là. Oui,
non, c'est pas une mauvaise idée, mais elle, c'est taper un, taper deux, en fait. En fait, t'as l'impression qu'elle est là, elle est en télécrochet, en fait.
Il y a 3 options.
Donc, je pense que le joueur le plus important à l'instant T par rapport à ce que le PSG a besoin, dans les 3 que t'as cité, c'est Akliouche.
Pas du tout.
Voilà, d'accord, ok. Donc voilà.
Mais ça, c'est lequel, toi, Akliouche va quitter Monaco, je voudrais le voir ailleurs. C'est tout.
Konaté ou autre.
Mais en défense centrale d'abord.
Donc tu veux prendre Saliba, mais Saliba, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il n'est pas trop sortable
d'Arsenal. Ça paraît évident.
Il va manger Saliba, Marquinhos, tout
le temps. De toute façon, moi, déjà, franchement, on est sur le back-to-back, etc. On est dans les festivités. Demain, il y a la parade, etc. D'aller sur le mercato, là, tout de suite, comme ça, là, avant la Coupe du Monde, si je trouve c'est prématuré. Moi.
Et d'aller sur la 3e étoile, vous trouvez pas que c'est un peu présomptueux?
Non, parce que c'est le coach qui l'a dit, on écoute le coach.
C'est un peu présomptueux, mais si je peux me permettre, si je vous demande là tout de suite, l'année dernière, quand on a gagné la Ligue des Champions, combien d'entre vous auraient pensé qu'on l'aurait gagné l'année d'après?
Moi non, parce que back-to-back c'est de la folie.
Et puis surtout, au-delà de la folie, c'est qu'il y avait une Coupe du Monde des clubs qui allait, pour moi, être payé à un moment donné du côté du PSG.
Aucune préparation.
Pour moi, la plus difficile, c'est la 2e et pas la 3e. dans mon esprit. La troisième est très difficile.
Après, ça va être une année de Coupe du Monde.
Non, bien sûr, mais
de joueurs qui vont être
fatigués. Pour moi, la Coupe du Monde des clubs, sans recrue offensive, de cette manière,
sans préparation,
etc. Pour moi, c'est après, bien évidemment, que gagner une troisième, ce serait gigantesque, ce serait exceptionnel. Mais je dis juste que c'est plus la deuxième confirmée, c'est plus dur qu'en fait la troisième, où clairement, moi, je vais même avoir le sentiment. Parce que ça va arriver, mais un peu comme Federer ou Nadal quand il joue à Roland Garros, c'est qu'à un moment donné, quand tu vas jouer le PSG en Ligue des Champions, tu vas même gagner les matchs avant les matchs, en fait. Parce qu'il va avoir
comme le Real Madrid
ce que tu as fait d'une certaine manière sur certains matchs.
Il va avoir un complexe d'infériorité de l'adversaire.
Est-ce que c'était pas le cas ce soir finalement? Avec Arteta qui commence très bas.
Arsenal, ils étaient favoris de toute façon du match, Maxime, c'est ce que vous m'aviez dit. Ouais. Mais en tout cas,
t'avais vraiment dit ça.
J'avais dit ne jouez pas le match trop vite. Parce que la manière dont le public s'était positionné, j'avais le sentiment que Paris Saint-Germain allait rouler sur Arsenal.
Pour le coup, le PSG n'a pas gagné 4-0, t'avais raison.
La réalité veut que ça s'est joué au pénalty, au tir au but, et qu'Arsenal a été plus que correct. Voilà. Maintenant, il y a une réalité, c'est qu'en effet, je pense que l'effet de supériorité parisienne existe et existe déjà et nous l'a montré encore sur cette finale, parce que la manière dont Arteta et Arsenal s'est positionné face au Paris Saint-Germain, ça prouve un petit peu justement le fait que il y a un syndrome de supériorité du Paris Saint-Germain.
J'ai bien peur, enfin pas peur, parce que moi ce serait cool pour le football français et le football global, parce que moi j'aime cette équipe et j'aime ce coach, mais qu'il y ait pas mal de coachs qui peuvent se faire dessus l'année prochaine en jouant le Paris Saint-Germain.
Ah bah oui.
J'ai vu Arne Slot se faire dessus complet cette année. J'ai vu là encore une fois Arteta dire oulala, nous faut qu'on ferme, etc. Parce que sinon on est en grande difficulté. C'est pas des petits coachs hein, ça. Hein. C'est des.
Oui. Mais c'est vrai que Slot il a quand même aussi flopé en première ligue.
Slot il a gagné la première ligue l'année dernière quand même. Là on parle quand même de deux coachs qui ont gagné la première ligue.
Sur la lancée de.
Oui. Attention, ça peut aussi les motiver. À l'idée de faire tomber cette équipe du PSG.
Oui,
Gaëtan, c'est vrai que maintenant le PSG a cette image d'épouvantail. C'est le Real Madrid des années ZZ.
C'est ça, on fait peur avant le match. On se rend quand même compte que première mi-temps, certes, on perd 1-0, mais Arsenal fait que 66 passes réussies sur la première mi-temps. C'est le plus faible total sur une finale de Ligue des Champions depuis que les statistiques existent. Donc c'est quand même. Je sais pas quoi dire par rapport à ça.
Tu parles de quelle équipe?
Bah Arsenal, ils ont réussi que 66 passes en première mi-temps.
J'avais pas cette stat, mais c'est effrayant. Je me demande si en Angleterre, il se fait démonter quand même Arteta.
Et combien de touches dans les 66?
Il y a de quoi se faire démonter ce soir.
Il n'y avait aucun adversaire. En fait, il ratait des passes par l'opération du
Rennes. J'aurais pas dû remettre une pièce sur Arsenal.
Il y a un adversaire qui te presse. Il y a des Clan Rice, il est pressé par un joueur au début.
Messieurs, il ne reste plus beaucoup de temps.
Ils ont fait une belle finale.
Il y a quand même un homme dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est le Ballon d'Or et le buteur aussi, quand même. Le seul buteur parisien pendant le match.
OD10.
Ah, tu l'appelles comme ça?
Ouais.
C'est son surnom?
Oui, ouais, c'est
Odedis Socarri. Il est également connu sous le nom d'Ousmane Dembélé. Il est sorti, alors il était perclus de crampes.
Ouais. Hein.
Là, on a eu une petite inquiétude quand même. Il y a une Coupe du Monde qui s'annonce pour lui. Et vous en avez pensé quoi de sa finale? Hormis ce pénalty, effectivement, très bien tiré.
Mais ça a été une performance qui, par rapport à ce qu'on pouvait attendre, a été globalement moyenne. Globalement moyenne. Alors évidemment, il est impliqué sur l'action du pénalty. Encore une fois, il est sur l'action du temps fort parisien. Il est buteur sur pénalty. Mais pour moi, c'est quand même... on va pas quand même gâcher la soirée, mais le fait d'avoir Ousmane Dembélé qui est encore une fois rattrapé par des soucis physiques dans la perspective de la Coupe du Monde, je suis pas forcément rassuré, parce que on va avoir besoin de la meilleure version d'Ousmane Dembélé pour aspirer à chercher cette troisième étoile en Coupe du Monde. Et le fait d'avoir un Dembélé même si encore une fois il a fait 90 minutes, mais il sort au moment des prolongations, c'est pas forcément rassurant.
Après, avant de parler de la Coupe du Monde, parce que là pour l'instant moi j'en...
Ouais.
Je sais pas, j'en ai rien à cirer, mais il faut d'abord parler de ce que Dembélé représente au Paris Saint-Germain. Même en faisant une finale moyenne, comme vient de le dire Elton, parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, moi, je le redis, mais Ousmane Dembélé est très très fort dans sa faculté à presser, dans sa faculté à se connecter au reste de l'équipe, d'être le vrai leader et le lien entre toutes les composantes du jeu de Luis Enrique. Il arrive plus à faire de différence balle au pied. Je sens qu'il a plus ce ressort physique et athlétique, mais malgré ça, il a, dans ce que j'évoquais tout à l'heure, dans la gestion des momentum des rencontres, il a encore une fois à la 60e minute, il se déplace là où il faut, il va faire le petit 1-2 avec Varaskelia, il prend ses responsabilités sur le penalty, parce qu'il y a beaucoup de penalty que Dembélé a raté récemment, et moi j'avais encore très peur. Il l'a pris contre le Bayern Munich et il l'a encore pris ce soir, et s'il le rate comme il l'avait raté notamment contre Tottenham ou dans d'autres matchs, contre Angers ou d'autres matchs, il en avait raté 2-3 avec le Paris Saint-Germain, ça aurait pu être très compliqué. Il le range très très bien. Après oui, il y a le souci physique, mais maintenant c'est ce que représente en fait Ousmane Dembélé au PSG. Aujourd'hui, Ousmane Dembélé est une icône du football français.
C'est vrai.
Il passe de l'autre côté. Il est passé de l'autre côté l'année dernière avec une Ligue des Champions et avec un Ballon d'Or. Mais là, la force de la récurrence, de refaire une Ligue des Champions avec le numéro 10, avec ce que ça représente, le passage de témoin entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, entre les deux saisons à cheval avec Luis Enrique, c'est absolument monumental. Et si on nous avait dit ça il y a 2 ans, personne aurait cru à cette histoire. Il y a un storytelling autour d'Ousmane Dembélé qui est hallucinant. Non, sincèrement, moi, en ce moment, c'est même des dérives. Là, on fait des documentaires pour tout et n'importe quoi, etc., sur Netflix, sur Prime Video. Mais le docu fin de carrière d'Ousmane Dembélé,
ils sont en train de tourner.
Non, je sais pas. Non,
et si
non,
mais
juste,
ça,
non, mais c'est juste qu'il y a une histoire. Voilà. Non, mais c'est juste qu'il y a une histoire. Sûr, Ousmane Dembélé, clair, qui est complètement dingue.
Et si en plus de ça, tu lui rajoutes dans son palmarès la Coupe du Monde,
mais il a gagné, mais là, il a gagné en étant
dans le palmarès qu'a donné Walid là sur les dernières années. En plus de ça, on rappelle quand même que, en plus de toute cette Champions League, de son Ballon d'Or, il ne faut pas oublier qu'il est aussi vainqueur de la Coupe du Monde.
Mais il peut la gagner en étant titulaire avec l'équipe de France, en ayant un rôle un peu plus important. Mais c'est monstrueux. Je ne sais pas si on se rend compte, parce qu'en fait, on est encore dedans. Là. C'est dur d'avoir du recul. Mais même pour ce que génère Ousmane Dembélé aujourd'hui en France, dans toutes les zones, que ce soit dans les côtés populaires ou non, etc., Ousmane Dembélé, c'est devenu quelque chose de très important.
Walid, t'oublies un truc, ouais. C'est que Ousmane Dembélé, c'est pas seulement une icône du football français, c'est le visage du PSG qui gagne, ouais, à l'international. Parce que aujourd'hui, en fait, quand tu parles du PSG Ligue des Champions, t'as Ousmane Dembélé, encore une fois, 8 buts en phase éliminatoire.
Après, enfin, on peut 8 pas buts s'empêcher, Elton. Enfin, on est d'accord que ce soir, il a été quand même un peu timoré.
Moi, je l'ai trouvé très emprunté physiquement.
Est-ce que c'est justement le fait de pas avoir eu de préparation physique? Je pense qu'il est en train d'un petit peu de le payer, ce qui m'inquiète un petit peu pour la Coupe du Monde. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. On n'y est pas encore.
Non, mais Maxime, moi, c'est moyen.
Je l'ai trouvé un peu emprunté physiquement aussi parce que justement, je pense qu'il a été gêné par le bloc bas d'Arsenal. C'est vrai qu'on sait comment que ça se passe par rapport aux qualités d'Ousmane. Est-ce qu'il aime quand même prendre la profondeur? Il a beaucoup aussi permuté avec Désiré Doué. Il a eu tendance parfois à trop en faire, mais tu l'as dit, les qualités individuelles de joueurs là, sur une simple action avec ce 1-2 de Kvara, ça suffit pour le faire briller.
Beaucoup de pertes de balles.
Ce penalty qui permet justement de faire revenir le Paris Saint-Germain dans le match, il a pris une autre dimension, mais ça on en est conscient.
Beaucoup de pertes de balles, mais l'aura qu'il dégage sur le terrain. En fait, avant Dembélé, ce qu'on lui reprochait, c'est qu'il en faisait beaucoup trop pour pas grand-chose. Aujourd'hui,
il a simplifié son jeu.
Et aujourd'hui, il en fait peu. Mais tout ce qu'il fait est bonifié sur la fiche statistique pour son équipe. Si tu regardes, but contre Chelsea à l'aller, but incroyable, très important, un partout, en transition. C'est le but qui change pas mal de choses sur le match aller. Tu prends le match contre Liverpool, doublé là-bas à Anfield pour climatiser Anfield alors que le PSG était quand même en difficulté. Tu prends le match contre le Bayern, doublé encore une fois, il prend un pénalty très important, il met un deuxième but exceptionnel avec une transition avec Vara et Désiré Doué. Et là encore une fois, il prend le pénalty, but encore une fois.
Oui, mais est-ce que nous on s'arrête pas sur Dembélé aussi, parce qu'il est français, là en Géorgie, il parle que de Kvara.
Premier but au retour. Non, mais parlons de Kvara. Pour moi, le numéro 1 sur l'épopée 2026, c'est Kvara Skelia. Mais même en ayant dit ça, là si tu mangles Karim Benzema, si tu mangles sur Ousmane Dembélé a une contribution statistique beaucoup moins dans le contenu par rapport à l'année dernière, où c'était plus dans le contenu et un peu moins sur les stats. Je me rappelle, on parlait beaucoup sur le Ballon d'Or des stats d'Hakimi. Et
qui marquait à chaque tour.
Sauf que
ce qu'a fait Dembélé cette saison.
Sauf que moi, Dembélé,
l'année dernière, je trouvais bien plus fort dans le contenu des matchs. C'était vraiment le leader, c'était celui qui, je trouve, faisait souvent des contenus très intéressants. Il avait souvent 7, 8 sur 10, sans avoir forcément des statistiques. Là, ce joueur-là, pour moi, c'est Kvaratskhelia. Par contre, celui qui est létal, celui qui a des statistiques très importantes à la fin de la saison, et puis, moi, je parle du global, de la récurrence, de la force de la récurrence, de gagner deux Ligues des Champions avec le PSG.
Si c'est le cas de Kvara aussi.
Bien évidemment, mais là on parle d'un joueur français.
Oui.
Là on parle d'un joueur français, on parle de.
Mais c'est parce qu'on a le prisme français.
Exactement. Mais et puis par rapport à ce que représente Dembélé, par rapport à ce qu'il a fait dans sa carrière, par rapport à quoi il est passé, par rapport à tout ce qu'on a dit, la transformation de Kvaratskhelia n'est pas la même qu'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, il y a eu une transformation de la part de Luis Enrique qui est complètement dingue. Jamais on aurait pu y croire.
Oui, jamais on a imaginé qu'il gagnerait un Ballon d'Or.
Qu'il gagnerait un Ballon d'Or, il gagnerait deux Ligues des Champions en étant un mec qui fait gagner des matchs très importants, mais pas un ou deux. Mais si tu regardes depuis la double confrontation contre le Barça, première année de Luis Enrique, où il marque à l'aller et au retour,
ouais.
Regardez le nombre de buts que Dembélé a marqué sur les phases éliminatoires. Vous allez péter les plombs.
Et puis surtout l'impact des buts, parce que c'est le but du 2-1 contre Chelsea, c'est l'ouverture du score à Anfield, c'est le but juste avant la mi-temps au Parc des Princes contre le Bayern, c'est l'ouverture du score contre le Bayern à l'Allianz Arena, et c'est l'égalisation contre Arsenal. Là, on te parle pas de but où c'est le 4-5e but, hein, c'est le but de confort. Non, c'est des buts qui sont terriblement importants à des moments clés. C'est Ousmane Dembélé, qui est clutch.